La parole à Christelle Coulot, qui enseigne à l'université de Paris 13, qui est une balzacienne aussi, qui a fait sa thèse sur Balzac, le roman de l'autorité, et dont le travail porte sur les poétiques romanesques, savoir et fiction, roman d'anticipation aussi, science et roman. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, je crois que Thomas Conrad enseigne ici dans cette maison. Et donc, vous allez nous parler de la cousine bête comme feuilleton des passions.
Alors, je suis très heureuse de prendre la parole à mon tour pour cette journée sur les passions. On a déjà dévidé pas mal des films de la toile d'araignée. Et donc, je vais être amenée forcément à recroiser certaines thématiques qu'on a abordées, mais je vais le faire donc sous l'angle du feuilleton. Car on oublie souvent, quand on tient entre les mains un volume de Balzac, que la plupart de ses romans sont d'abord parus dans des revues, dans des journaux, par livraison successive, de quelques pages à chaque numéro. La comédie humaine qu'on a l'habitude de lire avec des volumes compacts, des récits dépourvus de chapitres, forcément, puisque Balzac les a tous enlevés, avec son agencement global, avec ses regroupements, ses renvois d'un roman à l'autre, semble loin de ce modèle de lecture fragmenté qui mêle l'œuvre qu'on lit à d'autres textes littéraires, d'autres textes journalistiques, et surtout qui livre cette œuvre directement aux commentaires des lecteurs, parfois même avant que l'auteur ait fini de l'écrire. Et pourtant, Balzac est bien, dès 1836, avec La vieille fille, l'initiateur de la forme la plus radicale de ce mode de publication, donc le roman feuilleton. Il publie donc ce premier récit, La vieille fille, dans La Presse, un quotidien qui avait été créé peu avant par Émile de Girardin. Et le roman est publié donc en 12 livraisons successives. C'est jour après jour que les lecteurs vont découvrir un récit qui, lui aussi, continue à s'écrire, à s'amplifier au fil des numéros. Les réactions des lecteurs sont présentes, elles sont vives, elles sont attestées par de nombreux courriers qui réclament l'arrêt du récit, que certains jugent complètement immoral. La critique aussi commente et vise assez brutalement ce récit que le milieu journalistique considère en fait comme une sorte de dangereux coup éditorial qui va un peu rebattre les cartes dans le domaine. Émile de Girardin, à la fin de cette publication, met un terme à la collaboration, mais le chiffre des ventes a augmenté, ce qui laisse penser que l'œuvre a quand même eu un retentissement positif. Alors d'autres écrivains vont se lancer à leur tour dans l'aventure du feuilleton, Frédéric Soulier, Alexandre Dumas, Eugène Sue, surtout, vont devenir vraiment les champions du genre, en obtenant des succès absolument faramineux. Donc ce mode de publication devient véritablement un genre, avec ses pratiques narratives propres. On peut avancer par exemple l'importance de l'action, des rebondissements, le suspense qui va être capable d'accrocher le lecteur en fin de chapitre pour lui donner envie de lire le feuilleton au journal suivant. La multiplication aussi des personnages et leur manichéisme, l'utilisation enfin de toute une palette d'émotions. La possibilité de plus de s'adresser directement à un auditoire, à une large audience, fait du feuilleton une tribune de choix, ce qui lui donne potentiellement aussi une coloration politique. Enfin, la forme matérielle du support évolue puisque le récit peu à peu se cantonne au bas des pages des journaux et donc on peut vraiment isoler cette partie du journal, découper les pages, les relier, et ça devient donc un véritable mode de constitution du volume romanesque. Alors, c'est sous cette forme que paraît La Cousine Bête, d'octobre à décembre 1846, en 41 feuilletons qui ont été publiés donc dans le Constitutionnel. Entre-temps, entre La Vieille Fille et La Cousine Bête, Balzac a enregistré des demi-succès, voire même des échecs, ce qui a été interprété généralement comme une façon de payer, en quelque sorte, son refus d'adopter pleinement les canons du genre. L'interruption de la publication des Paysans, dont le rythme très lent et les longues digressions préparatoires, digressions politiques et sociales au début du récit avaient vraiment lassé les lecteurs, a été vécu par Balzac comme un véritable affront, d'autant plus que le succès a immédiatement auréolé Alexandre Dumas, qui a pris la suite avec, avec son propre pays. Donc Balzac, d'une certaine manière, a pris ses distances avec, avec le feuilleton, non pas dans la pratique, puisqu'il a continué à publier ses œuvres aussi sur ce mode-là, mais plutôt sur le mode d'une méfiance avec ce genre, méfiance qui lui fait prononcer des formules du type les trahisons du feuilleton, par exemple, ou l'idée de, d'un art qui aurait du mal peut-être à s'adapter à toutes les formes. Alors, il reviendra à plusieurs reprises sur cette hésitation. Est-ce que le feuilleton est quelque chose qui cantonne l'art, le contraint trop, pose problème, ou est-ce qu'au contraire, l'art romanesque est capable de s'adapter à tout ? Dans la pratique, on a plutôt l'impression qu'il reste quand même focalisé sur cette possibilité de relever le défi du feuilleton. Et en 1846, fort d'un premier succès avec une instruction criminelle, qui est en fait la troisième partie de Splendeur et misère des courtisanes, épisode qui a une intrigue et des personnages qui cadrent bien avec l'univers du feuilleton, puisqu'il s'agit du milieu des courtisanes, il s'agit d'éléments criminels. Donc, fort de ce succès, Balzac se lance dans le projet des parents pauvres, avec beaucoup d'enthousiasme, alors même que le sujet paraît en lui-même assez peu propice au feuilleton. Ça paraît être quelque chose de plus éloigné, finalement, des attentes dans le domaine. Alors, je ne perds pas de vue complètement les passions. J'y reviens, puisque, justement, il me semble que... si on considère cette coïncidence qui fait que le premier volume paru en fait sur le feuilleton s'intéressait à une vieille fille, là on retrouve un personnage de célibataire, mais on s'aperçoit que le traitement finalement de ces deux types est complètement différent, et que l'une des principales différences repose justement sur le déchaînement absolu des passions qu'on a pu déjà observer à travers tout ce qui a été dit depuis ce matin. Donc, ce que je voudrais essayer de montrer, ou l'hypothèse que je voudrais proposer, ce serait de montrer que cette thématique des passions, si elle prend une telle place, c'est parce qu'elle est, si elle est traitée avec une telle puissance, c'est parce qu'elle se situe finalement à l'articulation entre le projet romanesque global que poursuit Balzac à travers l'édition de la Comédie humaine. Il vient juste de terminer une première version de l'édition des œuvres complètes de la Comédie humaine. Et la cousine bête est bien entendu censée s'y intégrer. Donc d'un côté le projet romanesque global et de l'autre la pratique feuilletonesque dans laquelle il souhaite véritablement prendre une revanche. Ces deux projets peuvent paraître a priori peu compatibles, mais dans la cousine bête ils semblent se renforcer l'un par l'autre. Et j'aimerais montrer comment les passions, tout en se mettant au service de la pratique et de la mécanique codifiée du feuilleton, permettent aussi d'en dépasser les stéréotypes pour aller vers une complexité qui est caractéristique de ce que Balzac appelle avec une grandiloquence amusée la grande comédie humaine. Alors je vais vous proposer trois phases. Je vais d'abord parler des passions comme une façon de former le moteur de l'action, donc créer en quelque sorte une machine infernale qui va permettre de dérouler l'intrigue. Je parlerai ensuite du grand huit romanesque, comment les émotions, les sensations fortes vont permettre d'accrocher le lecteur. Et enfin, je parlerai de la possibilité de représenter un siècle en mouvement, en essayant de voir comment les passions cristallisent les principales évolutions de la société contemporaine. Alors, le plan que fomente Bess et Valérie est qualifié dans le roman de prodigieuse machine. Et les passions, de manière générale, apparaissent comme le carburant du récit, elles sont le moteur de l'action. Elles permettent, à plusieurs titres au roman de Balzac, d'entrer dans les codes narratifs du feuilleton, qui est vraiment centré sur l'action. La force des passions, tout d'abord, est essentielle. En permettant au roman de s'appuyer sur l'expérience intime du lecteur, de convoquer implicitement un fond culturel commun, la doxa sur les passions, les représentations artistiques déjà écrites, déjà peintes, déjà jouées, des passions. Le choix aussi de fonder le récit sur ces éléments donc intimes et culturellement représentés va permettre d'alléger considérablement toute la phase de préparation nécessaire à la mise en place du drame. Alors que dans d'autres récits, Balzac a eu à expliquer par exemple le fonctionnement de l'imprimerie ou a dû décrire tout un système, tout un écosystème villageois, par exemple dans Les Paysans, pour expliquer les motivations des personnages du récit. Là, on peut, par simple touche, allusion, mettre très vite en place les motivations des personnages, qui sont donc facilement nommés par le narrateur, par l'auteur, et qui sont facilement reconnus par le lecteur. De plus, le fait de fonctionner essentiellement sur le désir et l'envie, même si on a vu qu'il y avait beaucoup de variations autour de ces deux éléments-là, le désir et l'envie, deux avidités, c'est une façon en fait de créer un vide que le récit va devoir remplir, d'où cet engouffrement dans l'action. Balzac en général joue moins dans le récit qu'il propose sur les effets de surprise qui sont chers au feuilleton que sur l'attente qui va être créée par la tension dramatique qu'il a mise en place. La menace, dans toutes les phases préparatoires du récit, la menace grossit des passions accumulées, les thématiques de la monstruosité, de l'animalité, du pacte diabolique par exemple, contribuent toutes à proposer l'idée d'une catastrophe annoncée. Dans ce cadre, Balzac va pouvoir donc jouer avec les clichés du feuilleton, avec ses horizons d'attente. Par exemple, Lisbeth, par son statut de parent pauvre, devrait, dans un roman feuilleton, plus logiquement être promise au rôle de victime. C'est elle qui devrait être plutôt l'objet des malheurs, la victime des passions. En fait, par un renversement que décide Balzac, c'est elle qui devient le bourreau. On a des effets aussi de déplacement. On a parlé déjà ce matin de ce mariage qui apparaît au milieu du roman, au lieu d'être à la fin, ce déplacement qui va permettre de se donner un défi, d'excéder finalement les codes du roman feuilleton et de jouer sur le renforcement. Le suspense lui-même qui va être déplacé du quoi, que va-t-il se passer, au comment est-ce que tout ça va arriver, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion, va aussi permettre, là encore, jouer le jeu du roman feuilleton tout en essayant à chaque fois de renforcer ses effets et de surprendre le lecteur, non pas seulement par les événements narratifs, mais vraiment par la manière dont on va les amener, la manière dont on va les utiliser. Autre élément qui me semble intéressant aussi dans ce jeu de reprise et de décalage, c'est le travail sur l'intériorisation, puisque cette tension dramatique, cette tension de l'intérêt dramatique, se met en place non pas à coup d'événements extérieurs, mais plutôt à partir de données qui sont internes au personnage. Et l'essentiel des événements se situe au sein de la sphère privée. C'est d'ailleurs parce que le personnage de Lisbeth est un familier des autres personnages, c'est parce qu'elle connaît par cœur, par exemple, Hortense et Victorin, qu'elle va pouvoir les deviner, qu'elle va pouvoir les frapper le plus justement possible. Et son talent à les décrypter lui permet aussi de millimétrer son machiavélisme. L'effet d'intériorisation joue aussi à l'intérieur même d'un personnage, que ce soit Crevel, que ce soit Adeline, que ce soit Hulot. On a en général des personnages clivés, des personnages qui se livrent à différents aspects d'une même passion ou à plusieurs passions. Et ces tensions intérieures vont rejaillir sur l'intrigue et sur le développement du récit. Sainte-Beuve, commentant ce roman, avait remarqué à très juste titre que c'est le vice qui en est le ressort. Hein, et je pense que cette formule résume bien cette idée d'un fondement en fait, de l'ensemble de l'intrigue sur les passions et notamment donc, sur leur aspect vicieux. Pas que je me trompe de page, sinon je vais être perdue. Ces passions, d'autre part, donc là j'ai parlé surtout de la force des passions, ces passions aussi, on l'a dit déjà, hein, se construisent en réseau. On voit une démultiplication des foyers à partir du binôme initial, Bête d'un côté, Hulot de l'autre. Mais tous les autres personnages, bien entendu, sont aussi touchés par la passion. Donc l'idée, je ne reprends pas le détail, mais l'idée c'est qu'on a affaire ici à une combinatoire qui va rendre les effets des passions moins calculables, moins anticipables. On peut davantage jouer sur les retournements parce que cette combinatoire multiplie en fait les possibles narratifs. On retrouve en fait une fatalité tragique à travers l'usage de la passion, mais en même temps, on est très loin de la règle des trois unités et on va avoir au contraire une image très arborescente de l'intrigue romanesque. L'image de l'araignée, qu'on a déjà évoquée ce matin, l'araignée dans sa toile, est peut-être moins intéressante justement pour l'araignée que pour la toile, justement pour cette idée d'arborescence, cette idée de toile romanesque, où pour son plaisir, le lecteur va pouvoir se laisser prendre. Il s'agit donc moins de chercher la surprise en soi que chaque action va avoir pour conséquence en cascade. À partir du moment où les connexions sont étroites entre les personnages, où les passions ont créé entre eux une forme de solidarité au sens physique du terme, si l'un bouge, l'autre bouge forcément aussi, dès qu'un élément est déséquilibré, c'est l'ensemble de la structure qui vacille et chacun est amené à se repositionner. Donc tout nouvel élément introduit dans le récit a des conséquences multiples, elles-mêmes diffractées en répercussions diverses pour de nombreux personnages. La chaîne des conséquences s'allonge, s'amplifie en se déployant, ainsi que l'arborescence serrée. Cet effet se double en plus dans la lignée des habitudes du roman feuilleton par des effets de mise en série ou de mise en parallèle de scènes qui correspondent bien justement au découpage en unités séparées qu'on va avoir à effectuer pour la publication. Je vais prendre un exemple, c'était celui des cinq pères de l'église Marneffe. Je ne vais peut-être pas le détailler parce que je prends d'être un petit peu longue après, mais en tout cas, si on reprend ce passage-là, on va s'apercevoir que la multiplication des pères amusante en soi permet surtout une démultiplication des scènes, et que chacune de ces scènes va permettre d'introduire une action, chacune de ces actions va pouvoir permettre d'introduire une ou plusieurs péripéties, et dans ces péripéties, très souvent, seront intégrés des personnages nouveaux. Ce foisonnement des fils narratifs va permettre d'éviter la lassitude du lecteur. Sans avoir besoin d'étendre démesurément la liste des personnages, Balzac va disposer très facilement d'un large réservoir d'interactions qui forme autant de pierres d'attente susceptibles de s'actualiser dans le récit. D'où le jeu sur les variations, avec une passion qui va avoir des résonances diverses selon les terrains psychologiques ou sociaux ou simplement les moments dans lesquels elle va dans lesquels elle va se greffer. Les actions donc vont s'entrecroiser, les conséquences vont se recouper, des alliances ponctuelles vont se nouer brièvement ou en trompe-l'œil, des crises soudaines vont rebattre les cartes. On repart toujours sur de nouveaux intérêts, on explore toujours un nouvel aspect de la situation. Ces procédés, on l'a vu déjà ce matin, permettent aussi de relancer le rythme, qui est l'une des clés du feuilleton. Et il me semble par exemple que l'auteur semble faire un clin d'œil au lecteur lorsqu'il place dans la bouche de Valérie cette réplique qui évoque sa relation encore en attente avec Vincent. En 3 ans, dit Valérie, n'avoir pas gagné un pouce de terrain, c'est notre honte à toutes deux. Le lecteur s'incluse très certainement dans cette honte, honte à l'auteur de feuilleton qui laisserait l'action ralentir. Il faut que le récit avance, il faut qu'il rattrape un fil narratif qui a été laissé trop longtemps de côté. Donc la coexistence des différentes formes de passion permet ces effets de relais entre les protagonistes, entre les fils narratifs qui vont être exploités à tour de rôle, ce qui permet d'accélérer l'action. Il n'y a pas qu'un méchant chargé d'attaquer cette famille, mais toute une série de personnages qui vont s'associer ou qui vont, en parallèle, avoir des actions qui se redoublent. D'où un rythme très dense des actions, un rythme très dense des péripéties, et cette accélération, même si la vraisemblance est respectée grâce à l'astuce de l'ellipse, qui permet de gagner 3 années sur le temps du récit. Ces obstacles et ces péripéties, de plus, vont être renouvelés dans leur action même, dans la mesure où le désir passion suppose l'impossibilité d'une satisfaction totale. La puissance de la passion se renforce donc par rapport face à cette impossibilité qui va l'exacerber au lieu de la détruire. On ne possède jamais l'objet de la passion, et donc le désir va les obstacles vont creuser sans cesse le désir, l'exaspérer, et l'obstacle devient finalement consubstantiel de la passion elle-même. C'est un cercle vicieux finalement au sens propre du terme. Alors, les péripéties, l'action, le rythme sont des choses essentielles, mais le deuxième point sur lequel je voulais insister, comme je l'annonçais, c'était donc les thèmes des émotions. Comment Balzac, non content de nous entraîner à un rythme d'enfer dans un récit sous haute tension dramatique, nous promet de l'humour, du sexe et des larmes. Les hauts et les bas des personnages procurent en effet au lecteur des sensations fortes. Et à mesure que se déroule ce qu'on pourrait appeler, en reprenant une expression du père Goriot, un passionorama, qui procède à l'examen systématique des passions et à la mise en spectacle des passions, on va avoir la volonté chez Balzac d'affrioler le lecteur. Alors pourquoi je reprends ce terme ? Balzac est conscient des enjeux de fidélisation du lectorat, c'est un truc la publication est feuilleton. Hein. Il faut que le lecteur achète, il faut que le lecteur ait envie de s'abonner et donc lise et soit intéressé. Balzac, c'est aussi le pouvoir qu'il peut tirer des émotions. Je vous parlais tout à l'heure du feuilleton précédent autour de la courtisane Esther. Se trouve une lettre d'adieu d'Esther qui avait visiblement tiré les larmes à de nombreux lecteurs et confirmé donc le succès du feuilleton. Alors, sinon, illusion perdue, Balzac faisait mine d'espérer que les aventures d'un conte de retour, c'est un document financier, allaient affrioler le lecteur. Force est de constater qu'ici, il compte quand même sur des valeurs plus sûres. La cuisine bête est un vaste bric-à-brac des passions, un magasin de curiosités où chacun va trouver de quoi émoustiller son intérêt. Toutes les émotions que procurent les passions sont représentées, de la douce folie des premières cristallisations amoureuses, Hortense, Venceslas, aux lâchetés des vanités et des amours séniles, Juliette Crevel, de l'abnégation de l'amour sublime, Adeline, à la perversité d'une vengeance secrète, Bête, des grands airs de la jalousie, Hortense, Bête, aux spécialités de tendresse que déploie Valérie pour affoler ses amants. Donc la particularité des passions est de générer un espace à la fois spectaculaire et secret, qui est donc doublement propice à la captation du lecteur. Le spectacle tout d'abord. On disait tout à l'heure, Lisbeth vient régulièrement constater les dégâts infligés à sa famille. Comment on va au spectacle pour s'y refaire d'émotions. Donc loin de s'apesantir sur la description des passions, le récit les donne à voir en acte, d'où l'aspect très théâtral du récit. Les mots, le ton, les regards, les attitudes composent des scènes où se jouent les passions. L'esthétique du roman feuilleton, ainsi que celle du mélodrame, et auparavant celle du drame bourgeois, qui était théorisé par Diderot, on a parlé aussi tout à l'heure de Greuze, ont donné déjà un cadre littéraire et pictural à cette forme de représentation. Mais plus spécifiquement, l'univers de la cousine réalisé Merci. Si, ça marche. Donc, je disais, l'univers de la cousine bête, il est polarisé entre une vierge et un érotomane. On a quand même une tension assez vive entre ces deux extrêmes. Et donc, cet univers ne peut pas faire abstraction des corps ni des mots qui les désirent. Loin de reculer devant cette coloration érotique, qui lui a pourtant valu les récriminations du public, je vous en parlais tout à l'heure à propos de la vieille fille, Balzac en rajoute, n'en déplaise aux mécontents qui, lors de la parution, regrettent cette bouffée tide qui cède, je cite, au goût dépravé du jour. Dès l'ouverture du roman, Balzac laisse Crevel livrer crûment à Adeline ses intentions tout à fait déplacées. Il souligne volontairement le désir du baron Hulot ou de Venceslas, découvrant de dos une Valérie Califinge. Il détaille ses tenues aguicheuses, on a parlé tout à l'heure des mouches, les jeux de séduction. Il invite le lecteur à se projeter dans l'imaginaire des passions. La connivence, l'humour, les situations et les titres choisis pour chaque livraison viennent souvent donner en plus une impression de légèreté à cet attrait du vice, dont le narrateur lui-même nous rappelle qu'il est forcément plus attirant que la vertu. Le récit dans son ensemble nous invite donc à prendre plaisir au spectacle des passions. Il y a aussi la phase du secret que j'évoquais tout à l'heure. Balzac, dans le même temps, prend soin de ménager aussi des espaces fantasmatiques au lecteur en créant des zones d'ombre autour de certains éléments narratifs, le laissant imaginer, s'il le souhaite, les rendez-vous de la rue du Dauphin, la vie débauchée de Marneffe ou la nature exacte du lien unissant Lisbeth et Valérie. Balzac n'a pas attendu la cousine bête pour explorer les secrets de la vie privée, bien sûr, mais dans La Cousine Bête, il investit cet espace comme un équivalent au bas-fond fréquenté par les héros d'Eugène Sue, comme il l'avait déjà fait dans Esther, avec l'univers parisien des courtisanes. Il évoque dans une lettre à Madame Onska la supériorité de cet univers par rapport au faux Paris des mystères. Donc ce Paris plus réaliste dans sa médiocrité bourgeoise n'en est pas moins sulfureux, puisqu'il glisse sans cesse de la tiédeur des alcôves aux frissons tout aussi tentateurs de la violence et du crime. Dans ce cadre, prennent place ce qu'on pourrait appeler les vertiges de l'amour, la façon dont la confrontation perpétuelle aux extrémités de la passion présente comme un danger pour ceux qui l'expérimentent. De ce point de vue-là, on peut dire que le roman présente une sorte de mise à distance de l'univers passionnel. Tout d'abord par les effets de ridicule. Le ridicule guette les barbons amoureux qui tournent autour de Valérie, leur rivalité est comique et elle ne masque pas leur appartenance à la même confrérie. Bon, il y a tout un titre qui joue sur les confrères de la confrérie. La réduplication des farces dont ils sont systématiquement les dindons signale en même temps leur progressive inadaptation, leur mise hors du jeu des passions, dont ils n'ont plus que le choix d'être soit les dupes aveugles, soit les dupes consentantes. Et si l'on rit volontiers de ces pantins, le roman nous fait aussi partager fugacement ces moments où leur foi en Valérie vacille, où leurs certitudes sont ébranlées, on parlait tout à l'heure du baron sous la pluie, certitudes ébranlées, en tout cas avant que leur monomanie n'invente de nouveaux moyens de continuer l'aventure. On lit ainsi, au moment où tous les amants de Valérie sont réunis, « Tous ces gens d'esprit étaient depuis longtemps familiarisés avec les lâchetés de la passion, avec les transactions du plaisir. » À côté du ridicule, un autre élément va permettre aussi cette mise à distance de l'univers passionnel, c'est ce qui concerne en fait le thème de la dépense, dépense physique, morale et financière, qui implique l'exercice des passions et qui exerce donc sa tyrannie sur les amants. L'énergie vitale qui est si importante dans la philosophie balzacienne, on en a parlé tout à l'heure, s'y dissipe. Le talent artistique de Vincessa s'évapore dans les plaisirs d'un mariage d'amour. Les corps ne suivent plus, comme le font remarquer railleusement Valérie ou Josépha. Et les moyens financiers tendent eux aussi à s'épuiser. Le baron Hulot, qui entraîne toute sa famille dans la ruine financière, apparaît lui-même comme une ruine humaine. Et il n'est pas le seul à porter ainsi l'empreinte de la passion. On peut rapprocher ce constat des personnages à transformation du mélodrame ou du roman feuilleton, qui reviennent déguisés, grimés, ici des identités usurpées. Ici, le temps et les tourments de la passion suffisent à les rendre méconnaissables, et ils produisent sur le lecteur un trouble qu'on peut espérer salutaire. Si les stigmates de la passion sont glorieux sur le visage de Vincessa, qui est un mari comblé, ou sur la silhouette de Lisbeth, qui est transformée par la reprise en main de son destin, à l'inverse, le corps du baron Hulot témoigne de ce que Hippolyte Taine décrira comme la triomphante épopée de la passion, triomphante épopée pour la passion, mais qui correspond à une défaite des corps. Je le cite, « Il est beau de voir entrer la passion comme un poison dans un corps vigoureux et sain, brûler son sang, tordre ses muscles, le soulever en soubresaut, l'abattre, puis décomposer lentement la masse inerte qu'elle ne lâche plus. » Donc ce vertige qui saisit les personnages est aussi celui du lecteur qui est confronté sans cesse à des situations extrêmes et parfois contradictoires ou ambiguës. Même en déroute, Hulot garde l'estime de Josépha et du narrateur pour ses manières de grand seigneur passionné. Crevel, qui est pourtant moins épargné par le ridicule, est parfois susceptible de conseils avisés, voire même de gestes généreux, comme quand il décide finalement de donner l'argent qu'il réclame à Aline. Hortense, Aline, les personnages positifs donc, ne sont pas non plus d'une seule pièce, la première revendiquant sa violence, la deuxième semblant parfois douter de sa ligne de conduite. Et le narrateur n'hésite d'ailleurs pas à remettre en cause leur choix à l'occasion. Quant à Lisbeth, si on essaie de pousser le raisonnement un peu à la limite, sa vengeance, bien qu'elle paraisse disproportionnée, est peut-être aussi justifiée que celle d'un Edmond Dantès. Elle aussi, après tout, a subi le vol de l'être aimé et elle vit depuis sa naissance dans le cachot social auquel la condamne la misère et sa laideur. L'allusion à sa souffrance d'enfant, à la jalousie qui dès l'enfance donc l'oppose à Adeline, qui est un thème récurrent dans la comédie humaine et qui correspond à un aspect biographique de Balzac lui-même, accentue cette expression ponctuelle de proximité. Donc, quelque loin que soient les personnages, des ponts sont toujours possibles avec notre propre expérience. L'âme humaine est composite et le roman nous invite à aller creuser dans ce que Balzac appelle la mine à sentiments qui gît en nous. Il nous semble donc à travers ces ambiguïtés, à travers ces contradictions, ces hésitations, se produit ce qu'on pourrait appeler un guidage émotionnel du lecteur. Si les passions jettent ainsi le chaud et le froid sur la vie des personnages, le narrateur aussi, par la variabilité des points de vue qu'il adopte, par ses commentaires ou simplement par l'éclairage sous lequel il passe telle ou telle scène, semble lui aussi jouer un double jeu, tantôt à l'unisson et tantôt comme à distance. Ces variations, donc, justement parce qu'elles sont discordantes, opèrent ce guidage que j'évoquais à l'instant. Les théoriciens de la simulation mentale qui considèrent que le lecteur, parce qu'il s'identifie à certains personnages, parce qu'il les rejette au contraire, parce qu'il se projette dans l'univers représenté, est amené à se positionner personnellement par rapport aux situations qu'il rencontre au fil du récit, insiste donc sur cette manière de faire passer du sens à travers la narration. Hein, donc, sans forcément commenter, sans forcément donner la clé du sens, mais plutôt en essayant de mettre le lecteur en situation de se poser telle ou telle question. Et souvent, dans La Cousine Bette, un personnage qui en sait plus assiste à une scène, ce qui permet une autre lecture de la scène. C'est un support à ce genre d'interprétation des idées. La plupart du temps, un effet de juxtaposition suffit. Le lecteur, par exemple, peut être comme Crevel, absolument ébloui, abasourdi par le discours émouvant de la sublime Adeline, et puis rire quelques pages plus loin de la parodie féroce qu'en fait Valérie. Cependant, quand Valérie à la fin s'exclame « Ah, la vieille veut m'ôter le pain de la bouche, je vais te la secouer, moi !» À ce moment-là, la virulence même du propos oblige, pousse le lecteur, assez brutalement, à remettre en question son adhésion, à prendre du recul, pour mettre en perspective ses différentes expériences de lecture. Adeline, est-ce que c'est la sublime Adeline, ou est-ce que c'est cette vieille peau dont il faut se débarrasser? Le lecteur est amené à se poser la question, à se faire sa propre idée. Alors, bien que Balzac représente les passions dans tous leurs excès, on est assez loin du manichéisme, du roman feuilleton où le fléchage des personnages en principe est clair dès le départ, ou alors si un personnage change de polarité, il le fait d'un coup à l'occasion d'un coup de théâtre. Le lecteur donc doit prendre parti, quitte à renvoyer dos à dos les deux postures. Prendre conscience qu'Adeline est sublime, mais que son combat est perdu dans la société de 1840, société que représente plutôt Valérie, c'est une manière d'accéder à une lecture qui n'est plus contradictoire, mais qui est plutôt une lecture complexe de l'œuvre. Alors, le grand 8 des montagnes russes émotionnelles, qui font partie du plaisir du texte, peuvent être ramenés finalement à un petit 8, le petit 8 du ruban de Möbius, vous savez, qui, ce petit morceau de. Ce ruban de papier qu'on accroche en lui faisant faire une petite vrille, qui va permettre ensuite de suivre sa surface en continu tout en changeant de face sans arrêt. J'aime bien cette image pour essayer de montrer comment le récit, dans sa linéarité, arrive en même temps à nous faire sans cesse changer notre point de vue sur les choses, notre point de vue sur les événements qu'il raconte. La lecture nous fait passer à travers différents points de vue, à travers l'ensemble des éléments constitutifs du sens. Et comme le signale justement la préface des Parents pauvres, homo duplex, res duplex, tout est double, même la vertu. Donc on a ces effets d'oscillation, et ces effets d'oscillation se doublent dans la représentation complexe que Balzac essaie de construire, d'un autre effet de bouger, c'est le travail du temps. Donc j'en viens à mon troisième point, sur le siècle en mouvement. Balzac, sous la plume de qui on découvre le mot de modernité, s'est toujours réclamé historien du présent. Donc sa description des passions ne saurait être figée, on en a eu déjà de nombreuses preuves dans tout ce qui a été dit depuis ce matin. Donc les passions, comme l'ensemble de l'univers romanesque, sont sans cesse réactualisées, adaptées au comportement et aux valeurs nouvelles. Comme le dit l'auteur dans la préface d'Une fille d'Ève, c'était en 1839, l'auteur a devant lui pour modèle le 19e siècle, modèle extrêmement remuant et difficile à faire tenir en place. Donc, Pour finir, j'aimerais bien retenir deux aspects de cet ancrage des passions dans un présent en marche. Leur inscription tout d'abord dans la sphère médiatique, et puis leur lien avec l'évolution des valeurs. Alors tout d'abord, le rapport avec la sphère médiatique. Balzac essaie de nous proposer à travers la représentation des passions une sorte d'instantané de la société des années 1840. Balzac a d'ailleurs progressivement modifié la datation de l'intrigue pour la rapprocher de plus en plus du temps de la rédaction, du temps de l'écriture. Le fait que le texte paraisse sur un support médiatique, sur un quotidien, un journal, donne une impression de porosité avec la contemporanéité des actualités qui sont présentées sur ce journal. Des informations circulent dans le feuilleton qui ont pu être lues peu avant dans les colonnes dévolues aux actualités. De nombreux points de convergence ont été relevés, je ne vais pas les reprendre ici, mais on pourrait citer par exemple des éléments de l'aventure algérienne de l'oncle Fischer, des allusions à certaines affaires de mœurs, pense en particulier à l'histoire de l'infidélité très médiatisée de Victor Hugo. Les passions qui s'incarnent dans la fiction dialoguent donc avec celles qu'on peut constater dans la vie réelle. Au point qu'un critique, Hippolyte Babou, a pu se croire capable de nommer les modèles vivants des personnages du livre. Alors même si l'on sait que dans la création balzacienne, Balzac en général procède toujours par composition, donc il y a toujours plusieurs modèles, même s'il y a des allusions qui sont avérées, le simple fait que quelqu'un ait pu penser à un roman appelé accrédite à mon avis ses effets de circulation. D'ailleurs, on comprend mieux les désignations récurrentes de Crevel comme représentation de la bourgeoisie triomphante ou encore cette description de Valérie comme, je cite, une triste réalité moulée sur le vif. Il ne s'agit pas d'une allusion, mais à travers la typisation d'une émanation de l'époque. On retrouve significativement la même expression dans l'avant-propos à la Comédie humaine, où il est question du tableau de la société, moulé pour ainsi dire sur le vif, c'est vraiment les mêmes formules, avec tout son bien et tout son mal. Balzac aime beaucoup à jouer sur les échelles. Ce qui se passe dans la vie des individus rejoue souvent dans un cercle plus étroit les événements de la société ou de l'histoire. Et de même, il n'y a pas de petites passions. Les passions sont le monde, les passions font société, et le rôle du roman réaliste est de les recueillir, de les montrer, de montrer comment, dans leur développement le plus large, elles vont avoir des répercussions sur l'ensemble des sphères de la vie sociale. Donc plus qu'une tribune, le feuilleton, qui dans sa continuité déborde en fait le rythme du quotidien, déborde le support quotidien, le feuilleton peut devenir le lieu d'une synthèse, d'une prise de recul. Il offre un balcon d'où on peut observer le monde en train de se faire. Et comme dans le reste de la Comédie humaine, à laquelle ce roman est appelé à s'intégrer, c'est le lecteur à nouveau qui est chargé de tirer ce que Balzac nomme l'enseignement de ce tableau. On retrouve dans ce passage de l'avant-propos à la Comédie humaine, où Balzac développe cette idée d'enseignement, le mot passion réapparaît aussitôt comme un élément ambivalent qui fait le social mais qui le menace aussi de destruction. Les passions doivent donc s'inscrire dans le mouvement de l'époque, elles doivent suivre l'évolution de la représentation à travers les décennies sur lesquelles court l'écriture de la Comédie humaine. La suite est donc toujours au prochain numéro, dans le feuilleton comme dans la Comédie humaine. Hein. Et lorsque Balzac parle justement de ces effets de destruction en 1846, il vise notamment, c'est le deuxième point que je voulais aborder, la question, l'un des points de bascule importants du XIXe siècle qui tient, selon lui, à l'évolution des valeurs, ou plus précisément à l'évolution de la valeur, comment on évalue. J'ai oublié quelque chose, mais c'est lié à ce que je viens de dire. Je parlais tout à l'heure de cette idée d'évolution des passions. Puisqu'on va avoir une évolution des passions, on déborde de la posture traditionnelle du moraliste, qui est davantage attachée au caractère universel ou intemporel des passions. Sans renier cette strate, on a vu tout à l'heure la question du naturel qui était importante, Balzac aime aussi souligner comment les passions s'actualisent à chaque époque, comment elles prennent une coloration différente selon les mots à la mode, selon le bavardage de la passion qui va être réalisé à tel ou tel moment. Et donc on se rapproche là de l'écriture analytique balzacienne, l'écriture panoramique qui pique, qui pointe dans la société des gestes, des mots typiques d'un comportement, d'un rôle social. Et un exemple serait donc par exemple la passion de Valérie, mais je crois qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. La manière dont cette passion va tout d'un coup se colorer propose Angélique, ou de l'image de la femme comme il faut, tout ce que Balzac appelle les façons de l'amour moderne. Donc voilà, ça c'était pour faire le point sur cette notion d'évolution par rapport justement au modèle plutôt du moraliste. Donc j'en reviens au point de bascule, la question des valeurs, la question de la valeur. Dans l'introduction de La fille aux yeux d'or, Balzac construit tout un tableau qui montre une dynamique liée à deux principes qui sont l'or et le plaisir. Et grâce à l'or et au plaisir, on va voir l'ensemble de la société dans son mouvement d'évolution, un mouvement ascensionnel avec parfois aussi des chutes, mais un mouvement en tout cas qui va permettre à la plupart des types de personnages qui sont décrits dans ce passage une circulation active. Dans La cousine bête, on a un petit peu l'impression que cet effet thermodynamique, là, il ne fonctionne plus, la machine est grippée. Le modèle s'aplatit, le modèle s'horizontalise, il fonctionne en réseau fermé, en cercle vicieux. L'argent, dans ce cadre, prend de plus en plus le premier pas. Dans l'opposition de l'ordre, de l'or et du plaisir, il y avait au départ un équilibre, et là on a l'impression que c'est vraiment l'or qui va avoir le dernier mot. Je renvoie aux travaux d'Alexandre Perrault sur le sujet, bien sûr. Et si pour le baron Hulot, qui est un homme du passé, l'argent n'est évidemment qu'un moyen, on voit bien que pour Crevel, au contraire, c'est à la passion de s'adapter au budget qu'il s'alloue, ce qu'il appelle son compte à Freudel, c'est-à-dire l'expression. Son plaisir est donc un plaisir calculé, il le gère en bon père de famille. L'argent devient ainsi la seule mesure, et on voit que Valérie double la logique de l'amour vénal d'une volonté de capitalisation qui est bien éloignée de la folie des courtisanes. Quand Valérie meurt, c'est Crevel qui l'hérite. Enfin, on voit à ce moment-là vraiment, comme dans tous les bilans qui ont été faits au cours du récit, la façon dont l'héroïne capitalise. Elle est assimilée à une société. Quand on voit les titres de plusieurs épisodes, bilan de la société Bête et Valérie, comte Marnef, après on a le comte Fischer, on a même le comte de la femme légitime, donc tout le monde est bien passé par le crible de la comptabilité. Adeline, elle-même est donc touchée par ce phénomène, puisque à son absence de passion, Crevel suggère de remédier par l'intérêt qu'elle porte à la dot de sa fille. Et Adeline, dans la scène qu'on évoquait tout à l'heure, intériorise elle-même cet état de fait, lorsqu'elle se décrit à Crevel comme une femme que vous aimiez assez pour l'acheter. Elle sait depuis le début du récit qu'elle a un prix, dès la première scène. Mais elle a oublié la fluctuation des capitaux, puisque Crevel a fait entre-temps un autre placement, il a tout misé sur Valérie. Elle oublie aussi la loi de l'offre et de la demande, qui la rend beaucoup moins désirable lorsqu'elle s'offre que lorsqu'elle résiste. Les passions apparaissent donc dans ce cadre comme interchangeables, puisque seul demeure finalement l'étalon monétaire. Crevel affirme « Je suis de mon temps, j'honore l'argent ». Et il place au-dessus des lois, au-dessus du roi même, je cite, « la sainte, la vénérée, la solide, l'aimable, la gracieuse, la belle, la noble, la jeune, la toute-puissante pièce de 100 sous ». Tous ces qualificatifs, qui sont essentiellement empruntés au registre de la cristallisation amoureuse, viennent se fixer finalement sur la seule monnaie, ce qui se traduit donc par une dévaluation des passions. Pour en revenir à la loi de l'offre et de la demande, c'est elle qui fixe seule la valeur des êtres. Elle instaure donc un système relatif qui modifie largement le régime absolu des passions. Dès lors, le discours moral est inutile et le narrateur est plutôt soucieux de quantifier les chances de réussite de la petite entreprise de Valérie. Je cite La cousine bête. Une laïs à Paris dit donc avant tout trouver un homme riche qui se passionne assez pour donner son prix. Donc sous le feu des désirs croisés de ses différents admirateurs, les désirs mimétiques, Valérie en viendra ainsi à valoir plus que sa valeur, donc elle est surévaluée. Et donc cet ajustement des désirs, cette économie des passions n'épargne pas le monde de l'art d'ailleurs. On en a parlé là encore tout à l'heure, je suis désolée d'arriver à la fin, mais j'ai envie d'insister un petit peu sur ce parallélisme qui peut paraître quand même surprenant, parallélisme que le narrateur fait entre le vice et le génie. Affirmant que la beauté vénale sans amateur, c'est un corège dans un grenier, c'est le génie expirant dans sa mansarde. Venceslas est d'ailleurs tout à fait aussi surévalué que Valéry, puisque sa cote a été augmentée de manière tout à fait artificielle, hein, par le biais des commandes d'État. Il semble surtout intéressant que ce constat soit dressé au sein d'un feuilleton, comme un clin d'œil au lecteur du journal et au contrat financier qu'il est lié avec le romancier. Dans l'avertissement quasi littéraire que Balzac publie peu après, en 1847, au moment où commence la publication du Cousin Ponce dans le Constitutionnel, donc Balzac précise « L'abonné n'est pas un lecteur ordinaire » et explique qu'il est en droit de réclamer pour tout un trimestre 50 francs d'esprit, 100 francs d'intérêt dramatique et 7 francs de style dans le feuilleton. Donc cette remarque évidemment amusée débouche aussi sur une conclusion inquiétante puisqu'il souligne que les écrivains qui se font feuilletonistes n'ont plus de liberté de la forme, n'ont plus la liberté de la forme. C'est pourtant bien cette liberté qu'il s'arroge ici, qu'il prend pour proposer à un moment où les lecteurs étaient, semble-t-il, selon certains critiques, écœurés par les filandres infectes de Monsieur Su, en tout cas lassés peut-être de l'esthétique du feuilleton, il reprend cette liberté pour proposer sa propre vision du feuilleton. Donc la représentation des passions dans La Cousine Bette reflète ainsi aussi l'évolution d'un genre qui tente de se renouveler, qui tente de mettre ses séduisantes potentialités au service d'une élucidation réelle. Bref, un genre passionnément bête, mais pas bêtement passionnant.